Bonjour, nous sommes Elona et Grimont sur BAC FM 106.1. Nous accueillons Catherine Fargeton, vice-présidente chargée de l'application des peines au tribunal judiciaire de Nevers, pour parler des violences sexistes et sexuelles. Vous êtes magistrate en charge des affaires de violences sexistes et sexuelles. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail ?
Alors bonjour, donc tout d'abord je suis magistrate du siège, ma première fonction c'est juge de l'application des peines. Donc très rapidement, pour que ce soit clair, il y a les magistrats du parquet qui dirigent les enquêtes, qui ensuite poursuivent devant le tribunal et qui réclament une sanction devant le tribunal, et les magistrats du siège dont je fais partie, qui, après avoir écouté tout le monde, c'est-à-dire la partie civile, le procureur de la République et la défense, prennent la décision. Et parmi ces magistrats du siège, je suis juge de l'application des peines, c'est-à-dire que je m'occupe des personnes condamnées, une fois qu'ils ont été condamnés à une sanction, à une peine, et j'adapte cette peine à l'évolution de la personne. Donc par exemple, quelqu'un qui est en prison, qui va bénéficier d'un bracelet parce qu'il a bien évolué, ou au contraire, quelqu'un qui n'est pas allé en prison tout de suite, qui a bénéficié d'un bracelet électronique, et qui ne va pas respecter, qui va se retrouver en prison. Et en plus de ces fonctions, donc je suis la référente violence intrafamiliale. Donc c'est pas exactement les violences sexistes et sexuelles, mais ça en fait partie, puisque il y a des pôles de violence intrafamiliale qui ont été créés en novembre 2023 dans chaque tribunal, pour que l'information circule mieux entre tous les magistrats, parce qu'on a tendance parfois à être un peu cloisonné, et donc pour améliorer l'efficacité de la réponse pénale. Ce que je dois dire, c'est quasiment tous mes collègues ont affaire aux dossiers de violences sexistes et sexuelles, je ne suis pas la seule, loin de là. Mes collègues du parquet, mes collègues du siège, on s'est tous retrouvés en train de juger de telles affaires. Mais moi, je suis la référente, je suis un peu coordinatrice.
D'accord, merci beaucoup. La prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles a été déclarée grande cause du quinquennat par le président de la République le 25 novembre 2017 et a été renouvelée en 2022. Donc, la violence fondée sur le genre peut être de nature sexuelle, physique, verbale, psychologique, émotionnelle ou socio-économique et prendre de nombreuses formes, depuis la violence verbale et le discours de haine sur Internet jusqu'au viol ou au meurtre. Aux yeux de la loi, les violences verbales sont-elles appréhendées de la même manière que les violences physiques ?
Alors oui, bien sûr, ça fait partie des violences. Le terme violence, on pense plus facilement aux violences physiques, parce que c'est la plus visible, mais les violences verbales sont appréhendées de la même manière, parce que la violence verbale, ça peut être beaucoup de choses, des insultes, des humiliations, plus grave, du harcèlement ou alors des menaces. Et bien évidemment, on sait que les mots peuvent blesser autant que les coups, même s'il y a pas de trace apparente, mais parfois on garde la trace justement de ces mots à l'intérieur de soi et bien plus longtemps que des blessures. On a tous en tête, je pense, des remarques qui nous ont particulièrement blessés quand on était enfant, soit par des camarades, soit par des professeurs. Donc ce sont des violences et on les traite de la même manière.
D'accord, merci beaucoup.
Et donc, est-ce que vous savez si une plainte pour violence verbale est traitée de la même façon qu'une plainte pour violence physique ?
Oui, je vais vous répondre oui. Il y a le même dépôt de plainte, les mêmes auditions, la même recherche de preuves avec des témoins, et ça va être jugé de la même façon, avec la même peine qui est encourue.
D'accord. Donc on a vu que la communauté LGBT était souvent victime de violences. Selon un rapport de SOS Homophobie publié en 2022, il y a un nombre important de signalements de personnes ayant été victimes ou témoins d'actes LGBTI-phobes dans l'espace public. Dans la majorité des cas, ce sont des violences physiques commises par des hommes agissant seuls ou en groupe. À l'échelle locale, avez-vous également remarqué cette augmentation ?
Alors, de ma position, puisque je suis principalement juge de l'application des peines, je ne peux pas vous confirmer cette augmentation. Je vous inviterai plutôt à demander au service du procureur de la République, parce qu'eux traitent les dépôts de plaintes, et ils pourront sans doute mieux vous éclairer là-dessus. Mais néanmoins, je peux vous assurer que quand ces affaires arrivent devant le tribunal correctionnel, elles sont traitées avec une attention toute particulière.
D'accord, merci beaucoup. Et en ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles, selon l'Observatoire des violences faites aux femmes, 5 millions de femmes déclarent chaque année avoir subi des violences. Donc pensez-vous que la majorité des victimes déclarent leur agression ou ce chiffre est minoré?
Alors, quand vous dites ce chiffre est minoré, ça veut dire qu'il y a plus de femmes qui sont victimes que celles qui... Oui, bien sûr. Alors je pense qu'il s'agit que de la partie émergée de l'iceberg. J'ai retrouvé seulement le chiffre des violences conjugales. C'est que seulement 20% des femmes victimes de violences déposent plainte. Donc oui, il y a un chiffre beaucoup plus important de faits qui ont été commis et qui n'ont pas été déclarés. Mais il faut comprendre que c'est une démarche très compliquée de déposer plainte parce qu'on touche à des choses très intimes. Il y a les violences physiques, il y a les violences sexuelles, c'est encore plus intime. Et puis souvent, dans ce type de violence, il y a un rapport de domination avec l'agresseur. Donc ça rend encore plus difficile le fait de déposer plainte avec la peur, la honte, enfin des sujets qui sont fréquemment abordés. De même que vous pouvez vous retrouver là-dedans. Au lycée, on dénonce pas forcément des faits répréhensibles au CPE parce qu'on... On a peur ou on a honte ou alors on a peur des dominants. On dénonce que quand on est à bout ou alors on attend que des tiers le dénoncent à notre place.
D'accord. Et donc quand on évoque les violences sexistes et sexuelles, on pense tout d'abord aux femmes. Mais est-ce qu'il y a une part d'hommes qui est concernée? Et si vous le savez, quelle est la proportion?
Oui, alors j'ai fait des recherches concernant ces violences. Pour les violences sexuelles, de toute façon, dans les deux cas, c'est très majoritairement des hommes concernant les auteurs de violences. Violences sexuelles, c'est 95% des auteurs qui sont des hommes. Les victimes, c'est majoritairement des femmes aussi, mais un petit peu moins, 86% des cas, ce sont des femmes. Donc les hommes peuvent être victimes d'agressions sexuelles, de viols aussi. Et pour les violences conjugales, c'est à peu près le même chiffre. 88% des victimes sont des femmes. Il faut savoir que les hommes dénoncent encore plus rarement que les femmes les faits de violences conjugales. C'est encore plus compliqué pour eux.
D'accord, et donc je voulais savoir s'il y avait un cadre typique à ces agressions et ces violences, donc un cadre comme la famille, le travail ou une tranche d'âge plus touchée.
Alors il y a une majorité de cas, ça je le dis de manière empirique, j'ai pas de chiffres à vous citer, la grande majorité des cas se passe dans le cercle familial. Parce qu'il y a une promiscuité, on habite ensemble, on vit ensemble. Il y a aussi un rapport d'autorité, je vous parlais de rapport de domination tout à l'heure. Là, il y a un rapport d'autorité avec les adultes. Donc ça peut faciliter les violences, ça peut faciliter aussi le fait qu'on les garde secrètes pendant longtemps, parce que l'enfant ou la femme, donc majoritairement, ne veut pas que le cercle familial explose.
D'accord, merci. Et donc pour juger ces affaires, il existe deux cours, la cour d'assises et la cour criminelle. Et donc est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement la différence entre ces deux cours?
Alors oui, brièvement. Donc la cour criminelle, ce sont donc pour les crimes qui sont punis d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle au maximum. Et la cour d'assises, c'est au-dessus de 20 ans de réclusion criminelle. La cour criminels, ce sont uniquement des magistrats professionnels, 5 magistrats professionnels. La cour d'assises, il y a 3 magistrats professionnels et des jurés, donc des citoyens qui sont tirés au sort sur une liste. Mais il faut aussi préciser que, en plus de la cour d'assises et de la cour criminelle, il y a le tribunal correctionnel, donc qui juge les délits jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Et là, c'est vraiment notre quotidien, puisque les crimes sont quand même résiduels. Notre quotidien, c'est les violences physiques, verbales, qui sont jugées par le tribunal correctionnel, les agressions sexuelles, qui sont aussi jugées par le tribunal correctionnel. La cour d'assises, la cour criminelle, c'est plutôt des viols.
D'accord, merci.
D'accord. Et quelles sont les peines encourues pour des violences, justement, sexistes
voilà. Alors ça peut aller, alors c'est des violences aggravées, donc on peut dire que ça va de 5 ans d'emprisonnement jusqu'au crime aggravé, le viol qui entraîne la mort, ou le viol avec acte de torture ou de barbarie, ça peut aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Donc c'est vraiment un éventail très large de peines.
Et est-ce que nos lois diffèrent beaucoup par rapport à celles des pays voisins ?
Alors, je n'ai pas d'éléments de droit comparé par rapport à ça. Par contre, sur le sujet plus spécifique des violences conjugales, ce que je peux vous dire, c'est que l'Espagne a mis en place un dispositif très complet, pas seulement judiciaire, d'abord de sensibilisation de la population. Ensuite, ils ont mis en place une police spécialisée pour traiter ces affaires. Ils ont mis en place des systèmes de protection immédiate de la victime. La victime peut bénéficier de l'assistance juridique gratuite. Elle a un accès prioritaire aux logements sociaux. Elle a un droit à la mobilité dans le cadre de son travail si elle est agressée, qui est beaucoup plus facile. Ils ont mis en place des unités d'évaluation médico-légale, c'est-à-dire que c'est des médecins spécialisés et formés qui vont déterminer les blessures, soit psychologiques, soit physiques, de la victime. Et enfin, c'est jugé par des juridictions spécialisées. Donc ça a fait ses preuves en Espagne, et en France, on s'est beaucoup inspiré du système espagnol pour mettre en place petit à petit toute cette spécialisation.
D'accord. Nous allons maintenant parler des violences conjugales et de féminicide. Donc, quel est le pourcentage de violences conjugales en France, et si vous le saviez, dans la Nièvre ?
Alors, je n'ai pas ces statistiques. Je ne sais pas d'ailleurs si elles existent sur le plan national. Si par rapport à tous les faits de violence, il y a un pourcentage de violences conjugales, je ne sais pas.
D'accord.
Et donc, quel est l'impact sur les enfants qui subissent ces violences au sein même de leur foyer ? Est-ce qu'il y a une prise en charge particulière ?
Alors, oui, elle est nécessaire. L'impact, il est très important. Ce que je peux dire aussi, avant de répondre à votre question, c'est qu'ils sont témoins, les enfants, mais ils sont aussi victimes. Ils peuvent être victimes d'homicides. Hein. Il y a eu 21 enfants qui sont morts dans le cadre familial en 2018, donc des violences intrafamiliales. Il y a eu des homicides d'enfants. Et quand ils sont témoins, ils sont témoins et victimes, parce que ça a un impact très important sur eux. Il y a des études qui ont montré que ça pouvait avoir le même impact que d'assister à une scène de guerre ou à une scène de terrorisme. Donc il faut imaginer que ça a un impact psychique très important. Ensuite, après, un peu plus tard, ils courent le risque de développer des addictions, des relations quand même compliquées avec les autres, des relations de couple très compliquées, où ils peuvent reproduire justement les violences auxquelles ils ont assisté, ou alors ils peuvent se placer en position de victime dans leur relation de couple.
D'accord, merci. Et aujourd'hui, on avait vu qu'il y avait toujours des mains courantes qui étaient proposées aux femmes par les forces de l'ordre, malgré la circulaire de 2021 qui interdisait ce procédé. Donc les femmes subissent toujours des préjugés négatifs et sexistes, comme quoi elles sont soupçonnées de mentir, d'exagérer ou de vouloir priver le père de ses enfants, par exemple. Et donc, est-ce que vous savez pourquoi les mesures prises par le gouvernement ne sont pas appliquées pour l'instant ?
Je ne peux pas vraiment vous répondre. Là, vous parlez de pratiques par la police et la gendarmerie. Bon, en tout cas, il y a des plaintes qui sont prises, qui nous sont transmises. Je ne peux pas vraiment commenter, puisque ça ne devrait pas exister. Et après, sur les préjugés, pareil, je n'ai pas de commentaires à faire. En tout cas, on a beaucoup plus d'affaires qui arrivent devant les tribunaux qu'avant, et elles sont traitées avec beaucoup d'attention et beaucoup de sévérité quand elles arrivent devant le tribunal.
D'accord, merci. En ce qui concerne les féminicides, actuellement, comment est-il possible d'assurer la protection des victimes ?
Alors, je vais vous parler de deux dispositifs qui sont assez récents en France, mais qui sont inspirés aussi du système espagnol. Donc, il y a tout d'abord ce qu'on appelle dans notre jargon le TGD, le téléphone grave danger. C'est un téléphone, une unité de mobile qui est remise par le procureur de la République à des victimes quand justement la personne a déjà été victime et il y a un grave danger qui la menace que l'auteur reproduise ses violences. Et donc il y a juste un bouton à appuyer et tout de suite les forces de l'ordre sont avisées. Donc ça c'est assez efficace, ça a été déployé, il y en a plus d'un millier en France, voilà, et c'est remis régulièrement dans les tribunaux. Et puis il y a le bracelet anti-rapprochement qui là concerne l'auteur de violences conjugales. Évidemment la justice intervient une fois qu'un acte a été commis, pas véritablement en prévention. On intervient toujours trop tard, mais c'est notre rôle. Donc le bracelet anti-rapprochement, c'est un bracelet électronique qui se porte à la cheville, comme pour ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement, et qui va déterminer si l'auteur va se rapprocher de la victime. Et dans un rayon géographique qui est déterminé par le tribunal, par exemple, il a interdiction de se rapprocher à 5 km. Dès qu'il franchit cette limite, pareil, il va y avoir une alerte. La justice, les forces de l'ordre, tout le monde va être avisé pour prévenir justement la réitération de nouvelles violences.
Et donc, dans le cas de ce bracelet, c'est un périmètre qui est calculé par rapport au domicile de la victime ou par rapport à la victime elle-même ?
Par rapport à la victime, c'est-à-dire que si la victime se déplace et que l'auteur aussi se rapproche de la victime là où elle a bougé, ça va déclencher la même alerte.
D'accord. Et est-ce que vous avez un rapport particulier vis-à-vis des différents acteurs impliqués dans les affaires, donc les forces de l'ordre, les victimes, les prévenus ?
Alors là, je vais vous répondre en tant que juge de l'application des peines. Les forces de l'ordre, alors souvent je fais appel à eux. Donc s'il y a quelqu'un qui a été condamné pour des violences et qui a été condamné à une interdiction d'entrer en contact ou de se rapprocher de la victime, qui j'ai connaissance qui ne respecte pas son interdiction, là je vais demander au gendarme ou au policier d'aller le chercher, de me le présenter et puis je vais voir quelles sanctions appliquer, est-ce qu'il faut l'incarcérer ou pas. Les victimes, le juge de l'application des peines doit les informer de plus en plus. Donc maintenant, la loi prévoit qu'on les informe lorsque leur auteur qui est en prison demande à sortir plus tôt, donc demande un aménagement de peine, demande une permission de sortir. Et je dois les informer aussi de la date de sortie. Donc elles sont prévenues quand l'agresseur sort de prison. Les prévenus, alors non, puisque je m'occupe que des condamnés, mais évidemment ça c'est mon quotidien, je les vois.
D'accord, merci beaucoup. Et donc maintenant on va parler de l'après, donc la réparation entre guillemets pour les victimes et la réinsertion pour les détenus. Quelles sont les peines les plus efficaces pour éviter la récidive, s'il y en a des particulières ?
Donc je vais vous dire, il n'y a pas de peine plus efficace qu'une autre. Tout va dépendre de la personnalité de l'auteur, de son évolution. C'est notre principe fondamental. Déjà au stade du jugement, on cherche à individualiser la peine, à trouver la peine la mieux adaptée à la personnalité de l'auteur et aux circonstances de l'infraction. Donc parfois, la peine la plus efficace, c'est la prison, parce qu'un déclic va se produire à ce moment-là, parce qu'il va être sevré de l'alcool, des stupéfiants. Parfois, ça ne va pas être efficace et c'est plutôt quelque chose qui peut paraître anodin au premier abord, mais ça peut être faire un stage de prévention sur les violences conjugales, où là, ça va déclencher une prise de conscience. Certains m'ont rapporté que de comprendre grâce à ce stage les conséquences sur les enfants dont on parlait tout à l'heure, parce qu'ils n'ont pas forcément conscience que les enfants sont traumatisés par des scènes de violence. Ça va déclencher quelque chose et ils vont comprendre qu'il faut pas recommencer. Voilà, ça peut être aussi des soins qui vont être le plus efficaces.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement en quoi consiste la justice restaurative ?
Alors la justice restaurative, donc c'est ce qu'on appelle aussi au Québec la justice réparatrice. Donc, ça peut prendre aussi plusieurs formes. Ça peut être une médiation restaurative, c'est-à-dire qu'on va faire se rencontrer l'auteur et la victime, de manière très encadrée évidemment. Ils vont être suivis aussi par des psychologues, par des personnes formées à cet effet, soit des personnes qui travaillent dans des associations d'aide aux victimes, pour pouvoir se parler et comprendre, mieux se comprendre. Ça peut être aussi des cercles d'auteurs et de victimes, donc qui sont pas directement, qui n'ont pas commis leurs infractions au préjudice des victimes qu'ils rencontrent, mais par exemple des personnes qui ont été condamnées pour avoir commis des cambriolages et qui vont rencontrer des victimes de cambriolages, mais pas commis par eux. Et c'est pareil, ils vont échanger et ça permet de mieux se comprendre et pour les victimes peut-être d'avancer un peu plus que le procès pénal qui est un instant donné, qui est nécessaire aussi puisque c'est là qu'on va les déclarer victimes, qu'ils vont comprendre qu'ils n'ont rien fait de mal, c'est eux qui sont victimes, mais je pense que c'est complémentaire de cette justice, il faut qu'ils soient accompagnés et qu'ils comprennent d'autres choses que lors du procès.
D'accord. Et pour lutter contre ces agissements, il faut éduquer, prévenir, informer le plus possible. Trouvez-vous qu'il y a un manque de prévention sur le sexisme chez les jeunes ?
Il y a toujours une marge de progression. Si on est là aujourd'hui, quand même, pour en discuter, c'est que les choses évoluent, parce qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'en parlait pas du tout. Donc, ça se développe. Je pense qu'il... Il y a beaucoup de travail à faire, mais ça évolue dans le bon sens.
D'accord. Et de façon plus concrète et afin d'anticiper, vers qui faut-il se tourner quand on est victime d'une agression ?
Vers les forces de l'ordre. Oui. Il y a le numéro aussi qui a été mis en place, le 3919, violence femme info, si on est une femme. Et sinon, il faut aller au commissariat, à la gendarmerie la plus proche.
Donc, afin de porter plainte.
Oui.
Et est-ce qu'on a besoin de se faire accompagner ou on peut y aller tout seul ?
Alors, je ne peux pas répondre de manière générale, mais il y a des associations d'aide aux victimes qui accompagnent justement depuis avant le dépôt de plainte jusqu'à après le procès. Et je pense que oui, il y a une valeur ajoutée, bien sûr. C'est plus facile. Il y a d'ailleurs un dispositif un petit peu innovant qui a été mis en place dans la Nièvre. Il y a un chien d'assistance aux victimes. Donc, par exemple, pour les enfants qui ont du mal à témoigner, il y a un chien qui est fait pour ça, qui va les rassurer, qui va aider à libérer leur parole.
D'accord.
Et de façon plus personnelle, est-ce qu'il faut avoir une attitude particulière ou une façon de parler particulière également face à un prévenu selon sa personnalité?
Alors oui, il faut s'adapter. De manière générale, il faut toujours le respecter. Enfin, il faut respecter tout le monde, mais évidemment, le prévenu, il faut le respecter. Je pense que ça passe aussi par le fait de s'assurer qu'il comprend bien ce qu'on dit, ce qui est en train de se passer. Donc parfois, il faut adapter son niveau de langage, effectivement. Mais mieux une décision est comprise et mieux elle sera exécutée. Donc c'est dans l'intérêt de tous.
Et vous parliez d'associations d'aide justement aux personnes victimes de violences. Est-ce que vous en connaissez et vous pouvez nous en citer quelques-unes ?
Alors celle qui intervient beaucoup avec la justice, c'est l'association France Victimes 58, qui est basée à Nevers mais qui a des permanences un petit peu partout dans le département. Nevers, La Charité, Cosne-sur-Loire, Château-Chinon. Donc on peut aller les rencontrer même dans les lieux un peu éloignés de Nevers. Il y a l'association Décidel, Décide apostrophe L, pour les femmes victimes de violences qui proposent des hébergements d'urgence si elles ont besoin de quitter le foyer. Et puis il y a le SIAO pour les hébergements d'urgence aussi, elles peuvent faire appel à ce numéro de téléphone pour être hébergées en urgence. Il y a aussi le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles dans la Nièvre pour ces victimes-là.
D'accord. Et donc pour finir, si des élèves qui écoutent l'émission souhaite devenir magistrat, est-ce que vous pouvez nous dire quelles études il faut effectuer pour occuper ce poste ?
Alors, des études de droit, c'est Bac plus 4, je crois, ou alors Sciences Po. Ensuite, il faut passer le concours de l'ENM, le réussir. Une fois qu'on a réussi, on a une scolarité de 31 mois, en partie à Bordeaux, à l'école.
D'accord. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour des lycéens qui voudraient se lancer dans cette carrière? Et quelles qualités il faudrait avoir ou quelles sont les difficultés de ce métier?
Alors, moi, c'est un métier passionnant que j'aime toujours autant, même voire plus que quand j'ai commencé. On se sent très utile, on est au contact des gens, donc vous me demandiez des qualités, il faut aimer les gens. Il faut vraiment être imprégné de la complexité de l'être humain, de la complexité de la vie, avoir aussi de l'humilité, se rendre compte que son propre vécu n'est pas universel et que chacun a des vies différentes, des ressentis différents. Et puis les difficultés, comme pas mal de métiers, c'est la charge de travail qui est quand même lourde. Et puis la charge émotionnelle, puisque on ne traite pas des dossiers, enfin on traite des dossiers, mais on est quand même. C'est des situations humaines, on est en face de gens et il y a des affaires qui nous poursuivent longtemps après.
Merci d'avoir répondu à nos questions, Madame Fargeton, donc vice-présidente chargée de l'application des peines au tribunal judiciaire de Nevers. Et à bientôt sur Bac FM 106.1.